L'écho
du
parquet.
L'écho du parquet.
L'écho.
L'écho du parquet.
L'écho du parquet. L'émission qui met le feu
au plancher.
Il se dansait beaucoup ici dans le temps.
Oui. Des valses, une heure de temps.
Ah oui,
monde.
Une heure et quart.
Ouais.
Bonjour, vous êtes bien dans l'écho du parquet.
Oui, bonjour, effectivement, je confirme, vous êtes bien dans l'écho du parquet.
Peut-être qu'il est 11h chez vous si vous écoutez Radio Méga, et alors il est certainement aussi le deuxième ou le quatrième lundi du mois, et vous écoutez Radio Méga sur le 99.2 FM.
Ou alors il est éventuellement 19h si vous êtes sur fréquence 7, le deuxième ou quatrième lundi du mois sur 92 FM. Et enfin, ça dépend aussi des jours, c'est un peu compliqué en décembre, janvier, tout ça, vous êtes sur l'un ou l'autre.
Voilà, peut-être qu'il est 16h même, si vous écoutez la rediffusion du dimanche.
Ah, ou alors éventuellement, autre solution, il est l'heure que vous voulez et vous êtes en train de l'écouter, l'écho du parquet en podcast sur Arte Audioblog, c'est possible aussi.
Et là, vous pouvez, il est l'heure que vous voulez, vous pouvez bien être au chaud, sous votre couette, on est là. De quoi on va parler aujourd'hui? Ça sera une spéciale cornemuse. Avec un sujet qui lui est consacré, donc attention aux oreilles.
Tu commences déjà à dénigrer la cornemuse alors qu'on a à peine commencé. Et puis, on va commencer peut-être par les dernières découvertes du moment.
Oui, voilà. Alors, par quoi on commence?
Alors, on va d'abord parler de Moisbat, qui est un groupe que nous avons découvert cette rentrée à Lyon grâce à la Campanule. Et c'est le moment où on dit
merci la Campanule.
Voilà. Et Moisbat, c'est un groupe qui se définit comme faisant du groove agricole du Périgord. Et sur leur site, leur photo devant une moissonneuse batteuse explique de manière limpide le nom du groupe, si on avait encore un doute, parce qu'on avait un petit doute, Moisbat, oui, Moisbat. Et c'est, du coup, j'ai trouvé que Moisbat était au trad français des années 2020, ce que Aggressive Agricultor était au thrash metal dans les années 1980.
Même le nom, hein, ressemble très fort.
Voilà. Et d'ailleurs, Aggressive Agricultor était aussi du Pays Basque, comme quoi il y a un nid dans le sud-ouest pour ce genre d'expérimentation. Et en réalité, musicalement, le rapport avec Aggressive Agricultor n'est pas si capillotracté que ça, quand même. Parce que si Moisbat fait dans le groove, comme indiqué, et que ses membres ont manifestement tâté du jazz, ils savent aussi faire dans la lourdeur, et ça, c'est bien la lourdeur. Ils sont quatre. Ils chantent tous et dans leur instrumentarium, on trouve du diato, de la guitare, du sax, de la cornemuse, des percus, de la contrebasse, du banjo et du bon vieux synthé Moog. Car je crois que ça se prononce Moog.
Qu'est-ce que c'est que le synthé
Moog ? C'est une vieille espèce, vieille orgamon comme ça, mais je viens de dire une bêtise, j'en suis sûr, mais ça sonne très années 70. Et donc le morceau qu'on va écouter, il s'appelle En Granada. Et c'est présent sur Libertat, qui est leur seul album à ce jour, qui est paru en 2020, et pour laquelle la pochette annonce que les textes et le répertoire proviennent de collectages et du répertoire traditionnel du Périgord qu'ils ont réarrangé. Un peu réarrangé. À peine.
Voli, voli, voli anar, voli veder cum la verdezo, voli, voli, voli anar.
figlio, en grenadilla c'è figlia,
en grenadilla c'è figlia, en grenadilla c'è figlia.
Voli, voli, voli a nar, voli veder cum la verdeso, voli, voli, voli a nar, voli veder la verdesa. En grenadilla c'è figlio, en grenadilla c'è figlia,
en grenadilla c'è figlio, en grenadilla c'è figlia.
Voli, voli, voli a nar, voli veder cum la verdeso, voli, voli, voli a nar, voli veder la verdesa. Tre figli, en grenadilla tre figli,
en grenadilla tre figli, en grenadilla tre figli.
Voli, voli, voli a nar, voli veder cum la verdeso,
voli, voli, voli a nar, voli veder la verdesa.
En grenadilla due figli, en grenadilla due figli,
en grenadilla due figli, en grenadilla due figli.
Voli, voli, voli a nar, voli veder cum la verdeso, voli, voli, voli a nar, voli veder la verdesa. En grenadilla
Voilà, vous en avez eu plein les oreilles et c'est pas fini parce que aujourd'hui, sujet éminemment clivant qui ne plaira peut-être pas à tout le monde, mais tant pis, on prend le pari de vous faire aimer la cornemuse.
Ouf.
Avec une série de passionnés, de luthiers, de musiciens à qui on a tendu notre micro cet été au Festival du Son Continu.
Qu'est-ce que ça t'évoque, la cornemuse ?
Ça m'évoque un son un peu ancien et qui me rappelle des trucs que j'ai pas connus. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est un peu comme si ça me rappelait des choses que j'avais vécues il y a longtemps, mais en fait j'ai pas vraiment vécu. Mais du coup j'aime bien et ça appelle à un timbre qui est fort et qui me fait des émotions. Voilà.
C'est quoi pour toi la cornemuse ?
Bah la cornemuse pour moi c'est bizarre, j'ai l'impression que c'est un enchaînement de fausses notes.
Donc je m'appelle Naël Tripoli et je fais de la boue, la cornemuse des Landes de Gascogne. Je joue dans le duo des Cimes avec Anaïs Périnel qui est une super violoniste et chanteuse. Et voilà, je fais des instruments bricolés à côté et de l'accordéon. Voilà. Et j'ai fabriqué ma cornemuse. Et ben en réalité, quand j'ai commencé la cornemuse, je trouvais que c'était un instrument vraiment nul. Ça sonnait pas, je trouvais, ça faisait du bruit, c'était pas beau à regarder. Et puis en fait, j'étais très intrigué par le fonctionnement de l'instrument, comment ça fonctionnait, parce que je voyais des personnes qui soufflaient dans des pots, là, et je comprenais pas par où ça sortait. Comment... Et puis c'est en essayant de bricoler, c'est ça qui m'a intéressé. Et puis j'ai découvert qu'en fait, c'était un instrument vachement riche, vachement... Et qui est en fait en permanente évolution. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que les premières cornemuses landaises qu'on a retrouvées, c'était des pieds, des tout petits pieds, et c'était compliqué de jouer avec d'autres. Et c'est cette évolution qui est intéressante depuis les années 70, depuis qu'on a retrouvé ces instruments. Les instruments sur lesquels on joue aujourd'hui sont vraiment adaptés à la musique qu'on fait aujourd'hui. Et, ouais, c'est un instrument assez, assez personnel, quoi. On a assez pas rien de jouer de la cornemuse. J'écoutais quelqu'un qui disait que avoir une cornemuse sous le bras, c'est comme avoir quelqu'un sous le bras. On souffle dedans, on met notre souffle, c'est assez beau.
Et vous, ça vous évoque quoi, la cornemuse ?
Je trouve que c'est un très bel instrument. Qu'est-ce que je peux te dire ? Que les bourdons, ça donne quelque chose de rond, de doux. Voilà. C'est un bel instrument pour faire danser.
Et puis ça fait quand même penser à des mecs un peu chevelus, poilus, avec des kilts. Et justement, à Saint-Chartier, je ne sais pas si vous avez connu, mais il y en avait genre un peu des punks qui jouent de la cornemuse. Et ça, c'est quand même quelque chose, les punks qui jouent de la cornemuse. C'est de la un répertoire spécial de cornemuse, mais il y en avait à Saint-Chartier. Mais dans la rue, quand c'était un peu un festival un peu free.
Alors, moi, je fabrique la cornemuse du Centre France. Et en Europe, il y a 250 types de cornemuses différents. Voilà.
D'accord. Et qu'est-ce qu'elle a de particulier, la cornemuse du Centre France ?
Elle est d'une époque Renaissance. Elle a un boîtier qui relie le petit bourdon et le hautbois, qui sont parallèles. Et puis un bourdon d'épaule. Elles sont toutes faites sur cette formule-là.
Pourquoi c'est systématiquement en cuir, cette poche ? Est-ce que c'est possible d'en envisager qu'il soit synthétique ?
Oui, les cornemuses écossaises ont des poches en Gore-Tex. C'est un matériau synthétique qui a à peu près l'aspect du cuir. Donc si on est vegan complètement, on peut jouer de la cornemuse.
Des cornemuses portugaises, mais surtout des cornemuses galiciennes, la gaïta, et aussi des flûtes.
Et c'est quoi la particularité de la cornemuse de Galice par rapport aux autres cornemuses ? Qu'est-ce qu'elle a de spécial ?
Je suppose que si se compare avec les gaïtas du centre d'Europe,
pour lui, et si on compare la cornemuse, par exemple, du centre de la France et la cornemuse galicienne, il fait beaucoup de bruit, il y a beaucoup de sons. C'est un instrument que les gens aiment beaucoup, et parce que c'est un instrument chromatique. Donc, c'est un son. C'est pas doux, mais en même temps, ouais, on l'aime. C'est un instrument ancien. Oui. Et il y a des reproductions de cornemuses galiciennes dans les porticos de la Gloria, à la cathédrale Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'il y a de l'image. Oui, et que c'est du 15e siècle, donc c'est très ancien.
Pour les Anglais, la définition d'un gentleman, c'est quelqu'un qui sait jouer de la cornemuse, mais qui s'abstient.
Mon nom est John Swain, je fabrique des cornemuses depuis une quarantaine d'années. J'ai ouvert mon atelier en 1981, je crois, et on avait déjà commencé un groupe qui est devenu ensuite Blozabella. Et une des choses qui a fait sortir Blosabella du lot à l'époque, c'est qu'on utilisait des cornemuses et de la vielle à roue.
Everyone knows about the Highland bagpipe because of its position in Scottish culture.
Tout le monde connaît la cornemuse des Highlands à cause de sa place dans la culture écossaise et dans la culture britannique en général, parce qu'elle est utilisée dans l'armée britannique, et l'armée britannique, avec l'Empire britannique, l'a diffusée partout dans le monde, particulièrement dans des pays qui parlent anglais, comme le Canada, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, etc. Et si vous demandez à n'importe qui, la plupart des gens, la première cornemuse à laquelle ils pensent, c'est celle d'Écosse ou du sud de l'Angleterre.
And, English folk musicians would not use a Highland bagpipe.
Mais les musiciens de folk britanniques n'utilisent pas de la cornemuse écossaise parce qu'elle est trop associée à l'Écosse. Non pas qu'on ait quoi que ce soit contre l'Écosse, mais toute personne qui voudrait promouvoir la musique du sud de l'Angleterre, qui a une tradition propre forte par elle-même, ne choisirait pas cet instrument.
We were interested in the music of the south of England and European music generally.
Nous, on était intéressés par la musique du sud de l'Angleterre et de l'Europe en général. Et un ami et moi, on s'est intéressé à la cornemuse. Je serais incapable de vous dire pourquoi. Si ce n'est que manifestement, elles attirent un certain nombre de gens. Je pense que ça a à voir avec la combinaison du bourdon et de la chanterelle. Elles représentent un univers sonore différent de celui de la musique occidentale en général. Et comme vous savez, il y a énormément d'autres cornemuses en Europe, des dizaines et des dizaines. Et la plupart d'entre elles n'ont aucun rapport avec quoi que ce soit de militaire. Elles sont jouées souvent en extérieur par des bergers qui veulent quelque chose d'un peu plus intimiste et qui ne veulent pas faire peur à leurs troupeaux.
And then I became aware of the border pipe.
Et par la suite, je me suis intéressé à la border pipe et qui m'a semblé un instrument intéressant à fabriquer. Mais je voulais que ses performances aillent au-delà de ce que les instruments traditionnels du nord de l'Irlande pouvaient produire. Et à cette époque, au milieu des années 1980, j'avais rencontré le type de cornemuse qui était fabriqué dans le centre de la France. Et ça me semblait être la possibilité d'offrir aux musiciens un instrument très adaptable. Donc en quelque sorte, mes cornemuses sont un mélange des modèles anglais et français.
My name is Max Persson from Sweden. I live just outside Stockholm. And I've been making...
Mon nom est Max Persson de Suède. Je vis en banlieue de Stockholm et je fabrique des cornemuses depuis à peu près plus de 20 ans. Et je me concentre sur la cornemuse suédoise, qu'on appelle säckpipa. C'est une cornemuse plutôt petite si on la compare avec la plupart des autres instruments. Elle peut être vraiment petite, et donc le volume n'est pas très fort, ce qui la rend tout à fait utilisable si vous voulez jouer par exemple avec un violon, ou d'autres instruments comme en Suède, la nyckelharpa.
But this particular instrument was developed 15 years ago when I first time I heard the cabagaida.
Cet instrument-là, je l'ai développé il y a une quinzaine d'années après avoir entendu la cabagaida, qui est un instrument bulgare. avec un ton très bas. Et comme j'avais vraiment beaucoup aimé, j'ai voulu faire une cornemuse suédoise qui aille dans cette direction, qui ressemble à ça.
Nowadays, it's getting more and more common and popular. Yeah, yeah, it's growing in popularity.
De nos jours, dans la musique traditionnelle en Suède, la cornemuse devient de plus en plus populaire. La tradition s'était éteinte il y a à peu près un siècle. Il y a eu comme un trou d'une centaine d'années et il y a eu un revival dans les années 70 et 80.
Nous écoutions en conclusion de ce sujet sur la cornemuse le morceau Caught in a Deluge, Derided by Frogs, de Branch Armstrong Duo. Alors, le nom de famille de ce deuxième musicien, comme il est allemand, hein, vous tu prononcez comme vous voulez. Et c'est tiré de l'album Antithesis. Ces deux Allemands font, comme vous avez pu l'entendre, de la cornemuse un terrain de jeu assez illimité. Deux mots quand même sur Callum Armstrong, qui, entre autres, Hobbies, tente de fabriquer des hanches compatibles avec le holos, cette cornemuse gréco-romaine, vieille pour certaines de 2500 ans avant Jésus-Christ, et dont il subsiste quelques exemplaires dépourvus d'hanches et dont certains passionnés tentent de reconstituer les hanches.
D'accord, ok. Et sinon, je trouve ça absolument brillant, ce morceau.
Le pas de côté.
Le pas de côté.
Et dans le pas de côté, aujourd'hui, nous allons évoquer la plus célèbre des utilisations de la cornemuse par un groupe de rock. Alors, je ne veux pas parler des usages qu'en ont fait des groupes tels que Echo and the Bunnymen, Tears for Fears, les White Stripes ou Korn, ni même la chanson de Mull of Kintyre de Paul McCartney et les Wings en 1977. Non, c'est pas comme ça, j'y arrive pas. Mais je veux parler évidemment du grand classique d'AC/DC, It's a Long Way to the Top, qu'ils ont sorti sur l'album High Voltage en 1976. It's a Long Way to the Top, c'est LA chanson la plus diffusée dans les salles de concert de hard rock et de metal. Quand tu l'entends balancer depuis la sono, tu sais que le groupe va bientôt monter sur scène, et beaucoup de groupes l'utilisent même très souvent comme intro de leur concert, et eux montent sur scène pendant qu'on entend ça, It's a Long Way to the Top. En effet, que nous disent les paroles ? Que la route est longue pour pouvoir devenir une rockstar. Que la vie en tournée, c'est quand même vachement compliqué et que les groupes doivent faire face quand même à beaucoup de galères entre le manager ripou, les gens qui te piquent le matos, tout ça. Voilà, la route est très très longue pour arriver jusqu'au sommet du rock'n'roll. La route est longue, mais la partie centrale du morceau n'est pas un solo de guitare. C'est ça l'originalité de ce morceau, mais c'est un petit solo de cornemuse qui débouche ensuite, vous entendrez, sur un question-réponse entre la cornemuse et la guitare d'Angus Young, le fameux guitariste en culotte courte. L'idée, en fait, de mettre une cornemuse, ça vient du producteur du groupe, le grand frère George Young, frère de Angus et Malcolm. Et l'origine de ça, c'est qu'en fait, plusieurs des membres de ce groupe australien avaient des origines écossaises et que George Young, le producteur, s'est souvenu que le chanteur de l'époque, Bon Scott, avait dans sa jeunesse participé à une sorte de, je ne sais pas comment on appelle ça, un marching band de cornemuse. Voilà, les groupes de cornemuse qui défilent dans la rue. Et donc, quand l'idée a été émise en studio par George, Bon est allé s'acheter une cornemuse, étant donné qu'il n'en avait pas, puisqu'en fait, il n'en avait jamais joué, car dans le marching band en question, il faisait des percussions.
Et donc, voilà. Il a appris la cornemuse exprès pour
Et
ce
il
morceau.
Il a appris les rudiments de la cornemuse, juste de quoi jouer les quelques notes qu'on va entendre, et contribuer quand même de fait à faire de ce titre l'un des plus emblématiques du groupe. Dans l'écho du parquet, sur Radio Méga Fréquence 7 ou sur Arte Radio Blog, AC/DC, It's a Long Way. We'll be right back.
Alors, on ne le dirait peut-être pas, mais vous êtes toujours dans l'écho du parquet. Et c'est une émission de musique traditionnelle qui met le feu au plancher. Voilà, c'est si vous aviez encore un doute.
Traditionnel australien.
Eh oui, les traditions, ça commence quand hein, ah, vaste
voilà,
question.
C'est ça, ouais.
Alors, on voulait aussi écouter cette semaine Cass Canzi en trois mots. Cass Canzi, qui est un groupe relativement local, lui, de Rhône-Alpes, disons, avec Aymeric Tron Alvarez à l'accordéon chromatique et à la guitare, et puis Jérémy Bonamanté-Boule à l'accordéon diatonique, au guimbarde et à la shrutibox. Ces deux-là ont pas mal de projets parallèles, on ne va pas tous les citer. On peut tout de même dire qu'ils font tous les deux partie de Plume, un trio dont on vous parlera plus en détail à l'occasion d'une prochaine émission.
Oui, car on les a interviewés ce week-end, ils étaient venus à côté de Privas.
Voilà, donc vous allez attendre un petit peu pour...
le temps qu'on fasse le montage.
Le contenu de cette interview, mais vous l'aurez un jour. Alors on écoute une valse à 5 temps qui s'appelle Songe et qui est tirée du seul CD pour l'instant du groupe, un petit EP de 5 titres. Et on vous pose la même question que le groupe le suggère sur son site internet. Cass, qu'en dites-vous ? Thank you.
Et on approche tout doucement de la fin de cette émission d'aujourd'hui, de l'écho du parquet. Et je vous propose de se faire une petite bourrée pour la fin. Voilà. Et je me demande même si ça pourrait pas, tu demandais quand commence la tradition, si ça pourrait pas commencer une tradition aujourd'hui qu'on appellerait la bourrée de la fin, par exemple.
Ah bah oui, par exemple, voilà. Et on finirait chaque émission par une bourrée.
Par exemple, vers la fin, quoi, à peu
près. C'est
un peu
obsessionnel.
Ça serait ça le concept, ouais, ouais. Et donc, cette bourrée-là, qu'elle inaugure une série ou pas, on est allé la chercher sur les bourrées du Massif Central, volume 3. Un CD qui est publié par l'association Les Braillots. Les Braillots, c'est le centre départemental des musiques et danses traditionnelles du 63, le Puy-de-Dôme. Et donc, c'est une association qui fait plein de bonnes choses, qui œuvre beaucoup pour les musiques traditionnelles en général et la bourrée en particulier. Parmi ce qu'ils font, bah, ils font par exemple deux festivals bien connus, les Volcaniques et Comboros. Ils ont un site internet très riche où il y a beaucoup de ressources. Ils chapeautent plein de groupes et les CD rendent compte de ça. Ils ont notamment un groupe de bal folk pour enfants qui s'appelle le Bal des Petits Crapauds et toute une série de musiciens qui gravitent dans l'univers, qui ont leur groupe propre et puis qui s'associent parfois. Et donc sur ce CD volume 3, il y a une plage 6 avec un groupe plus ou moins mystérieux qui s'appelle les West Triumphers. Alors pas si mystérieux que ça dans le sens où on peut trouver la composition du groupe sur le disque, mais je ne sais pas si ce groupe a existé en dehors de cet enregistrement.
Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que chaque plage et chaque morceau, c'est un groupe différent qui le compose et qui l'a fait. Donc le contenu du disque, c'est que des bourrées, mais à chaque fois joué par des musiciens différents, donc des groupes des braillots, mais des groupes très différents les uns des autres.
D'accord. Et donc là, les West Triumphers nous ont associé deux bourrées dans une suite, la bourrée de Louchette et En attendant la pluie, avec une ambiance qui effectivement fait un peu western avec l'utilisation du banjo, mais on vous rassure, dans le cadre de cette émission, on y retrouvera à un moment donné une cornemuse bien de chez nous. crois que les amateurs de rock'n'roll qui nous aient rejoints en route pour écouter AC/DC auront compris le rapport entre les solos de guitare et les solos de cornemuse avec ce morceau.
Et les non-amateurs de rock'n'roll le sont devenus au cours de cette émission.
Voilà, j'espère peut-être. Et bah, c'est fini, globalement. On voudrait faire un dernier petit truc avant de se quitter, c'est qu'on voudrait vous lancer un appel. On voudrait faire un appel à témoignage à propos d'un de nos projets futurs qui concerne le disque Gabriel Valls.
Qu'est-ce que c'est que ce disque, Gabriel Valls ?
C'est un disque qui est sorti en 1974, ce qui veut dire qu'il va fêter son 50e anniversaire l'an prochain. Et c'est un disque dans lequel, disons qu'on a essayé de retrouver les musiciens de ce disque pour notre projet. Il y a notamment Marc Perron qui y a participé, Perlin Pimpin Folk, les Frères Toussaint, tout ça. Et donc on est sur la trace des musiciens, on a les contacts, tout ça, et on va faire une émission spéciale autour de Gabriel Valls. Donc ils vont nous raconter cette histoire, mais on aimerait bien que vous, éventuellement, les auditeurs, si jamais ça vous parle, vous nous racontiez aussi l'histoire de ce disque.
Et si vous l'avez à la maison, si voilà, vous avez dansé dessus.
Si vous avez dansé dessus, si vous avez joué dans les boeufs, les morceaux qui sont présents sur ce disque. Voilà, on voudrait que à la fois les musiciens vous en parlent et que vous en parliez aussi aux musiciens pour qu'ils puissent l'entendre et savoir ce que ça a représenté pour vous. Et donc si c'est le cas, si vous êtes par exemple suffisamment âgé comme moi pour avoir écouté ça quand vous étiez gosse, ce qu'on vous demanderait de nous faire, si vous voulez bien, c'est nous faire un petit enregistrement. Ça peut être même avec un téléphone portable, si vous n'avez pas mieux que ça, vous mettez dans un coin silencieux et vous nous parlez un petit peu de ce que ce disque a représenté pour vous, et vous nous envoyez ça à notre adresse mail lechoduparquet@proton.me. Et puis on va faire une collection comme ça de témoignages autour du disque, et puis on va en insérer un certain nombre dans l'émission pour nourrir ça et puis faire un bel anniversaire à Gabriel Valls.
Voilà, et si jamais vous ne connaissiez pas le disque, il n'est pas trop tard pour l'écouter et vous faire un avis dessus et l'enregistrer si ça vous intéresse quand même.
Voilà, si vous le trouvez, parce qu'il n'est plus disponible à la vente, il n'y a que des exemplaires de seconde main qu'on peut trouver.
Voilà, et on se dit à dans deux semaines, on se quitte sur un dernier morceau, un morceau du groupe Minimal Klezmer qui s'appelle Heidi Nico.